Paradis Moteur ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question d'Israël, de Claudel, de Faust, de chant, de comédie musicale et même de Scarlett O'Hara. Avec Philippe Decoufflet qui signe Contact, un spectacle entre revue et comédie musicale basé sur le mythe de Faust pour un pacte chorégraphique. Manu Farine.
Ou comment par la comédie musicale se souvenir de la comédie musicale de Pina Bausch et même de la compagnie DCA.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Ce soir, Xavier, de quoi sera-t-il question, vous qui êtes en train de la faire?
Ben voilà, je ne peux pas encore vous dire exactement, mais de vous comme toujours, ça ne parle que de vous.
Parfait, 19h35, ça va bien? J'ai entendu un rire.
C'était pas Judith, pour une fois, c'était Judith Chemla.
Il accuse toujours, toujours ses employés.
Mais Judith Chemla n'est pas une employée, c'est une invitée. Les justement, autres le sont, en effet. 19h35, plateau Voix, avec Judith Chemla, dont on vient d'entendre le rire gracieux, à l'affiche de Rendez-vous à Athlète de Chirel Amitai, portrait d'une comédienne, chanteuse, compositrice au spectre large, de la comédie française à la série Engrenage, en passant par les films de Noémie Lvovsky, Lucille Como.
Retour sur le parcours d'une actrice qui imprime au théâtre et au cinéma la sonorité très particulière de sa voix, à la fois fluette et volontaire.
19h45, la session chanson, ce soir une programmation de notre réalisateur Thomas Beau, mais d'abord l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan, que l'on ouvre d'abord avec le son du jour de Zoé Sfez.
Davvero, penso che questo ritrovamento sia anche molto utile per far capire che questo tipo di reati sono reati odiosi, sono reati contro il patrimonio, contro la collettività, contro l'umanità. Et contemporainement, une grande opportunité.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour en version originale.
En italien précisément, puisque c'est le ministre de la Culture italien, Dario Franceschini. D'ailleurs en italien, on dit ministre des biens culturels, qui réagit à cette saisie historique des carabiniers italiens. Ils ont récupéré 5361 pièces d'archéologie qui provenaient de fouilles clandestines dans les Pouilles, en Calabre, en Sicile, en Sardaigne. Elles avaient été exportées par un certain Gianfranco Becchina, spécialiste de la falsification basée à Bâle, en Suisse. Il s'apprêtait à mettre toutes ses œuvres en vente sur le marché clandestin des œuvres d'art. C'est la plus grande récupération d'œuvres d'art de l'histoire de l'Italie, tant en qualité qu'en quantité. La collection évaluée à 50 millions d'euros comprend des centaines de vases, de coupes, d'amphores, de statues, de fragments de fresques allant du 6e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle de notre ère. La récupération de cet énorme matériel va maintenant permettre aux carabiniers spécialisés dans les trafics d'œuvres d'art de remonter plusieurs filières et d'entreprendre des actions légales contre plusieurs détenteurs de ces œuvres à l'étranger. Je pense que cette saisie est un message fort pour dire que ces actes de pillage sont des actes odieux contre la collectivité, contre le patrimoine et même contre l'humanité, disait le ministre. Les peines doivent être exemplaires. Cela nous rappelle aussi qu'on doit accorder la même attention à tous nos sites archéologiques, et ils sont nombreux en Italie, pas seulement aux plus visités.
Merci Zoé Sfez. Le week-end commence pour vous?
J'ai de la chance.
Bon week-end. Et tout de suite, eh bien, on passe au Journal de la Culture, version supplément week-end, avec vous Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent. Et pour commencer, donc, comme chaque vendredi, je m'arrête sur l'actualité des séries télévisées. Et cette semaine, aux États-Unis, c'est la Fox, vous savez, la chaîne des Simpsons, de 24 heures chrono ou de Dr House, qui a fait l'actualité avec plusieurs annonces de projets de renouvellement. Et outre l'annonce d'un possible retour de X-Files, la Fox a surtout créé la surprise en annonçant le renouvellement quasi immédiat de sa nouveauté de janvier après avoir diffusé 2 épisodes sur son antenne.
Et quelle est donc cette nouveauté qui fait tant parler?
Eh bien après Fame, ou encore après Glee, c'est une nouvelle série musicale créée par Lee Daniels, vous savez, le réalisateur remarqué de Precious, et produite par Brian Grazer, l'un des producteurs les plus influents d'Hollywood. Le titre du show, Empire.
I went away for a long time for you to build all of this. I miss my sons growing up. I'm gonna make some things right. You're not shutting Jamal out no more.
Light 'em up, light 'em up. Monotop music, let's all loose.
Ça parle de quoi?
Alors l'histoire en deux mots, Lucius Leon, ex-star du hip-hop, riche producteur de disques, est atteint d'une grave maladie et doit désigner son successeur parmi ses 3 fils, 2 artistes débutants et un homme d'affaires aux dents longues. Une succession difficile, perturbée par le retour de Cookie, l'ex-épouse du producteur qui, après 20 ans de prison, a décidé de régler ses comptes.
Elle était en prison?
Effectivement.
Pour nous en parler, qui avez-vous donc contacté cette fois-ci?
Eh bien, j'ai mis sur le coup ma correspondante américaine, l'universitaire Séverine Barth, spécialiste des séries télé, installée à San Francisco. Et alors, regardez pour nous les premiers épisodes d'Empire, et voici ce qu'elle en a pensé.
Alors, on est sur quelque chose qui, économiquement, ressemble un peu à Glee. L'idée, c'est d'avoir une série sur laquelle on va pouvoir asseoir des ventes de disques sur le rap, les musiques urbaines. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de nouveau. C'est aussi une série un peu communautaire, c'est-à-dire qu'effectivement, vu la thématique, tout le casting est noir. Et vu de France, c'est moins prégnant, mais aux États-Unis, les aspects communautaires et raciaux sont extrêmement importants en termes de communication, de programmation et de public touché. Cependant, Empire semble toucher toutes les catégories. Ensuite, pour l'avoir regardé, moi, je l'ai trouvé un peu étrange, cette série. C'est-à-dire qu'on a un enjeu dramatique très fort. On a des discours intéressants ponctuellement. Par exemple, un des fils de Lucius est homosexuel. Et donc, il y a toute une trame autour de cette problématique de l'homophobie, notamment dans la communauté afro-américaine. Mais moi, ce qui me gêne totalement dans cette série, c'est le montage et l'écriture au sens de la réalisation. Moi, j'ai vu une série écrite comme une télé-réalité, avec des ralentis, des musiques hyper dramatiques, avec des mouvements de caméra qui permettent de voir le personnage qui regarde au loin, menaçant, etc. C'est-à-dire tous les procédés qu'on retrouve de dramatisation des, entre guillemets, gens normaux dans la télé-réalité pour marquer les situations. Et ça, ça me gêne parce que pendant longtemps, on a dit que les télé-réalités allaient puiser dans le domaine des séries télévisées pour trouver des modalités d'écriture. Et là, je trouve qu'on est en train de voir l'inverse. Et même si Empire, c'est un thème nouveau, il me semble que dans l'écriture, là encore, on retombe sur quelque chose qui peut poser question en termes de créativité.
Alors, pour se faire une idée de notre côté de l'Atlantique, il faudra attendre sa diffusion, qu'M6 vient d'acquérir, M6 vient d'acquérir la série Empire, donc on attend la diffusion. Je ne sais pas quand.
Philippe de Coufflet, je sais, tout à l'heure, on va parler de comédie musicale avec vous. Est-ce que vous êtes client de ce genre de série, justement, musicale, comme Glee ou comme d'autres? Je n'ai pas la télévision, va-t-il me dire.
C'est exactement ça. J'ai failli lire, j'ai failli faire un karaoké.
Non, je ne regarde pas trop les séries.
Et pas tellement la télévision non plus.
Parfois, la nuit, mais plutôt des films que des séries.
Judith Chemla, vous qui avez joué dans Engrenage, oui. Est-ce que les séries musicales,
quelque chose pour regarder? Malheureusement, je n'ai même pas vu Engrenage.
Que vous avez tourné.
Non.
Très bien. Des bons clients pour la bonne journée. Merci. Et on prolonge ce supplément avec votre revue de presse de l'actualité culture média de la semaine écoulée. Mardi.
Eh bien, mardi, c'était « Quel prix remettre à Charlie ?» Libération évoquait en effet le débat qui divise les équipes du festival de la BD d'Angoulême. Au lendemain des attentats, le festival a annoncé la création d'un prix Charlie de la liberté d'expression. Et puis, dans un second temps, le président du jury de l'édition 2015, Gwen de Bonneval, a proposé de remettre d'office le grand prix du festival à Charlie Hebdo. Et après de nombreux échanges, l'équipe du festival a fini par trancher et a déclaré, je cite, que si attribuer le grand prix du festival à Charlie aurait pu être notre premier réflexe, il a paraissait que cette idée n'était pas forcément la meilleure, mais ajoute être au travail pour que d'autres actions portent l'esprit Charlie.
Mercredi, en Rhénanie.
Oui, dans un festival de littérature de Cologne, lundi 19 janvier dernier, Michel Houellebecq était invité afin d'y présenter son livre, l'envoyé spécial du quotidien du soir. Dans un article publié dans leur édition datée de mercredi, rapporte quelques-unes de ses sorties et l'auteur de Soumission a entre autres déclaré à propos de la France « On peut avoir un pays de plus en plus à droite qui continue à élire un président de gauche, c'est un piège ». En 2017, si François Hollande est réélu, alors que la France est encore plus à droite, ça peut tourner très mal. Fin de citation.
Jeudi, je ne suis qu'un cri.
Oui, dans son édition d'hier, Le Parisien aujourd'hui en France annonçait en exclusivité le contenu d'un album hommage à Jean Ferrat, apparaître le 2 mars prochain à l'occasion du 5e anniversaire de la mort du chanteur, conçu par son producteur et défendu depuis longtemps par Marc Lavoine qui était proche du chanteur. Cet album réunira 14 titres et 16 artistes dont Kali, Dionysos, Hubert Félix Thiéphen, Patrick Bruel ou Zebda. Alors Le Parisien nous révèle par ailleurs que Benjamin Biolay et
Catherine Deneuve
y interpréteront C'est beau la vie et sans Severino,
je ne suis qu'un cri. Et aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, il faut encore attendre jusqu'à demain afin de lire le numéro exceptionnel de Mon Quotidien qui, à l'occasion des 20 ans du journal des 10-14 ans, eh bien recevait en rédacteur en chef ni plus ni moins que le président de la République.
Un président de gauche dans une France de droite. Ça va mal finir.
Et il y a 20 ans, en fait, il faut savoir que Mon Quotidien, eh bien, dans Mon Quotidien, Charb, l'ex-directeur de Charlie Hebdo, collaborait déjà à ce journal. Et François Hollande, à l'époque, avait abonné ses enfants donc à Mon Quotidien. Le président de la République a répondu aux questions des jeunes lecteurs, journalistes en herbe, qui ont pour l'occasion été au centre de l'attention de nombreux médias, BFM TV ou encore le grand journal de Canal+.
Alors je vais être le plus précis possible. On va voir quel est l'état exact du coût du travail pour, vous savez, cette TVA sociale qui avait été...
Je l'ai trouvé très simple, très compréhensible.
Non, j'ai voulu que ce soit les...
On se rend compte qu'il y a un humain derrière et c'est ce qui est intéressant.
Il utilisait des mots plutôt faciles pour qu'on comprenne.
Vos enfants sont abonnés à Mon Quotidien ?
Non, pas encore.
Ah, ceux de Xavier Delaporte, oui ?
Ouais, au Petit Quotidien, ouais. C'est pas mal, hein. C'est compliqué d'expliquer l'affaire ouais. Charlie Hebdo en 10 vignettes.
Ils l'ont bien fait d'ailleurs.
Mmh. Ils l'ont très bien fait.
Manou, de votre côté, vos enfants ?
Plus.
Hop ! Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Ils sont trop grands.
Ah d'accord, c'est pour cette raison. J'ai eu peur qu'ils veuillent
casser. Ils lisent le monde maintenant.
Oui, mais bien sûr, ils ont 12 ans, c'est pour ça. Non mais oui, c'est... ils voient jamais Walt Disney, mais ils connaissent tous Jean Eustache, hein. 12 ans. Est-ce qu'il y a des réactions à tout ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités, Judith Chemla ou Philippe de Coufflet ?
Philippe,
je... je sens qu'on va commencer tout de suite. On commence.
Le rendez-vous.
Eh bien, ça c'est dit. Plateau musical avec vous, Philippe de Coufflet, danseur, chorégraphe, fondateur de la compagnie DCA en 1983, avec laquelle vous avez déjà signé plus d'une vingtaine de pièces, parmi lesquelles Codex, Shazam, Sombrero, Panorama, qui revenait sur votre répertoire. Et aujourd'hui, Contact, c'est à l'affiche du Théâtre National de Chaillot à Paris, sur le plateau à court et à l'avant de la scène, le chanteur et compositeur Nosfell, à Jardin, le musicien Pierre Le Bourgeois, et sur le plateau, dans un décor mobile énorme, tout en déséquilibre, une quinzaine d'interprètes, danseurs, comédiens, musiciens, circassiens, magiciens, le tout rythmé par des projections et tournages vidéo en direct, puisque tout est absolument en direct sur la scène. Le spectacle a des allures de revue, comme un hommage à la comédie musicale, placé sous le signe de Faust. De quel secours était le mythe de Faust pour construire ce spectacle ?
En tout cas, vous l'avez bien présenté.
C'est votre meilleur attaché de presse.
Alors, on souhaitait au départ, j'ai travaillé avec quelques-uns des danseurs, Christophe Salingro, Alice Roland et Clémence Galliard, et on avait envie d'écrire une histoire pour une fois et de partir d'une narration.
Pourquoi donc, pour une fois ? Parce que généralement, c'est une suite de numéros, c'est ça ? Vous aviez besoin d'un récit cette fois-ci ?
J'avais envie de changer un petit peu de méthode et d'habitude, on part plus octopus, c'était une atmosphère, on partait d'une atmosphère, Panorama, c'était un panorama. Codex, c'est un spectacle qui est inspiré d'un livre. Donc voilà, à chaque fois, il y avait une source plus ou moins claire. Et là, on a cherché dans les mythes. Et on a Christophe Salingro, ça doit faire une quinzaine d'années que chaque fois qu'on commence à travailler ensemble, il me dit « Mais faisons Faust, faisons Faust ». Cette fois-ci, on a essayé, on a travaillé là-dessus.
Manu Farine.
La comédie musicale, c'est quelque chose qui vous travaille depuis un bon moment. Il y a même eu un peu des tentatives. Je crois qu'il y a même eu un projet de film musical à un moment donné. Quelle serait votre histoire à vous de la comédie musicale, plutôt du côté d'Hollywood ou plutôt du côté de Jacques Demy, vos références ?
Oh, c'est un vaste mélange. Moi, j'ai découvert d'abord la comédie musicale par les Américains, effectivement, Busby Berkeley, et puis Fred Astaire, Kelly, tout ça. Et puis ensuite, les danseurs noirs américains. Il y a Stormy Weather qui m'avait marqué. Puis quand j'étais adolescent, c'était Phantom of the Paradise, qui a été un film très marquant pour moi, qui est presque une comédie musicale. Voilà, et puis après, Bollywood, effectivement, Jacques Demy, que j'ai redécouvert plus tard, parce que je trouvais ça peut-être un petit peu kitsch quand j'étais enfant, ces chansons. Et après, j'ai adoré ça, son cinéma de Peau d'âne, Les Parapluies, Les Demoiselles, surtout. Donc, voilà, je me suis un peu inspiré de tout ça et ça fait longtemps que je travaille comme ça sur un espèce de mélange des arts sur scène. Cette fois-ci, la dimension supplémentaire, c'est le chant, c'est que les danseurs chantent.
À propos de comédie musicale, dans votre parcours et parmi les nombreuses rencontres qui vous ont construit, il y a Matt Mattox, un danseur de comédie musicale de la grande époque auprès de qui vous êtes un temps formé. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher auprès de lui, Philippe de Coufflet ?
C'était mes tout débuts en danse. Hein. Je sortais de l'école de Marcel Marceau et j'avais rencontré sa femme qui était prof à l'école Marceau. Je l'ai suivie et avec cet homme, j'ai effectivement appris pendant un an la danse. C'est une danse assez musculaire. Le jazz, la danse jazz, mais comme on la pratiquait effectivement dans les grandes comédies musicales. Donc une danse assez athlétique et assez complexe, mine de rien, techniquement, parce que c'était un mélange de techniques américaines assez
compliquées. Plutôt méprisé d'ailleurs par la danse contemporaine, hein, cette danse jazz, partie de la danse contemporaine. Pour...
Ouais.
Qu'est-ce qu'il avait lui de particulier?
Ben lui, il avait dansé dans Seven Brides for Seven Brothers. C'était un des sept frères. C'est un danseur roux extraordinaire. Il a dansé dans pas mal de grandes comédies musicales. Et il avait vraiment ça en lui. Je sais pas quoi, comme on sentait chez lui l'essence d'Hollywood. Donc c'était pas mal.
Judith Chemla, est-ce que vous avez un lien avec la comédie musicale, vous qui êtes par ailleurs chanteuse? On en parlera tout à l'heure.
Oui, enfin, un lien.
C'est-à-dire, quelle est la comédie musicale que vous avez regardée, celle qui... Si c'est un univers qu'elle est en train de penser en direct. Et bien entendu. Ouais.
Le Magicien d'Oz, c'était...
Oui,
c'est une comédie musicale, absolument. Bien sûr.
Et bien voilà, tampon, Le Magicien
d'Oz. Elle l'a trouvé. Lucille, vous vouliez poser.
En 2010, vous aviez créé, Judith Chemla, au Bouffe du Nord, un spectacle musical avec un musicien qui s'appelait Tue-Tête. Qu'est-ce que ça disait à ce moment-là de votre rapport à la scène, de faire du théâtre musical?
Eh bien, je sortais de la Comédie française et c'était le lieu de tous mes désirs, en fait. J'avais envie de faire un spectacle qui mélangeait toutes mes passions. Et ma grande passion pour la musique, l'art lyrique, la chanson. Voilà, c'était un peu un spectacle fourre-tout. Maintenant, je précise un peu.
Un peu les choses. On va voir ça tout à l'heure. Avant la création, Philippe de Coufflet, vous avez monté des ateliers de recherche pour ce spectacle. En quoi ça consistait, des ateliers de recherche?
C'est ce que je fais un petit peu à chaque fois. Ouais. On travaille, on s'y met un peu plus d'un an avant et on cherche. Donc dans un premier temps, on discute. Il y a un petit comité de personnes qui discutent. On essaye d'écrire des choses, de noter des idées, des gags, des choses qui nous semblent intéressantes à traiter, des situations dans lesquelles on a envie d'être ou pas, d'essayer de déterminer une couleur. Et ensuite, par exemple, on a travaillé, j'ai peut-être eu deux sessions de travail sur lesquelles on a travaillé sur le premier acte de ce spectacle. Premier acte dont il ne reste, je pense, aucune trace aujourd'hui.
Ça partait dans quelle direction?
C'était quatre personnes à table qui se demandent ce qui pourrait bien monter comme spectacle.
Manou.
Alors justement, le spectacle s'ouvre finalement sur un solo entre hommage à Fred Astaire, peut-être, en tout cas de claquettes silencieuses, et hommage à Michael Jackson, sans doute période Billie Jean. Qu'est-ce que ce prologue-là dit du spectacle? Pourquoi est-ce qu'il fallait commencer par ces citations-là? Si ce sont celles-là d'ailleurs, parce que je me trompe peut-être.
Oui, il y a ça entre autres. Ben, je voulais commencer par quelque chose de simple. J'ai beaucoup cherché le début. C'est Eric Martin qui danse ce début. C'est un danseur qui travaille avec moi depuis très longtemps.
Et
qui a une
incroyable
qualité de mouvement, une précision dans le mouvement. Qui est
un ex-patineur artistique.
C'est ça.
C'est pour cette raison. Et d'ailleurs, il y a une dimension patinage artistique dans le spectacle. Tout le spectacle a l'air d'être glissé. Il y a même des mouvements qui sont des citations littérales à la fin.
Oui, c'est vrai. On a réutilisé des pas de patin, des pas de patinage plusieurs fois. Donc, c'était aussi ce danseur avec lequel je voulais travailler au début. Voilà, il y avait l'idée de quelque chose qui allait commencer très simplement et qui allait se construire petit à petit. J'avais aussi dans la tête ce film Stop Making Sense des Talking Heads. Je ne sais pas si vous voyez au début, qui commence par le chanteur qui est seul sur scène avec une guitare sèche. Et puis, petit à petit, on amène les instruments, on amène les musiciens. Et c'est un concert qui grandit. Donc, je voulais faire un spectacle comme ça qui soit un petit peu...
Presque chorale, on peut le dire même au niveau des citations, parce qu'elles sont nombreuses dans le spectacle. Le cinéma de Murnau dans la construction du décor, Jérôme Robbins, et puis Pina Bausch qui est évoquée sur scène par des gestuelles précises, des rondes, des défilés, et peut-être même par le titre, parce que quand on pense Contact et qu'on voit le spectacle, on se met à penser à Contact Off, qui est une des pièces maîtresses de Pina Bausch en 78. Qu'est-ce que vous lui devez à Pina Bausch, si vous lui devez quelque chose, Philippe de Coufflet?
En tout cas, c'est vrai qu'entre autres, je voulais que ça soit une sorte d'hommage à Pina. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai travaillé avec 14 danseurs, un groupe assez important, avec des tranches d'âge. Ils ont de 60 à 25 ans, enfin, c'est assez large.
Des corps
des qualités de corps, de mouvements très différentes. Et donc j'avais ça dans la tête, effectivement. Contact, c'est le début de Contact Hof, premier spectacle de Pina que j'ai vu à Avignon en 81 ou 2, je ne sais plus. Et qui m'a marqué, c'était une des grandes chorégraphes que j'ai eu la chance de croiser. Et pour moi, c'était une des plus grandes. Donc c'est quelque chose, cette forme de danse-théâtre est unique.
Vous l'avez croisée, vous l'avez connue?
Oui, je l'ai connue. Elle a même organisé une fête pour mes 40 ans, je crois.
Ah ouais, donc quand même, vous la connaissez.
J'étais à Wuppertal faire mon solo. Oui, on a passé du temps à discuter tous les deux. Oui, elle aimait bien mon solo. Elle avait découvert Le Petit Bal, en fait. Le Petit Bal qui...
Vous rappelez ce que c'est que Le Petit Bal?
Alors, Le Petit Bal, c'est un court-métrage que j'ai tourné il y a quelques années sur une chanson de Bourvil qui est Le Petit Bal perdu. Et c'est fait en fausse langue des signes. Et c'est vrai que l'idée vient entre autres de ce film de Chantal Akerman qui s'appelait Un jour Pina m'a demandé. Et on voyait, je crois que c'est Lutz Foster, ce danseur de Pina, qui signe The Man I Love. Et c'est une scène absolument splendide. Donc voilà.
De quel ordre étaient vos conversations avec Pina Bausch, Philippe de Coufflet?
Écoutez, je ne m'en souviens plus très bien. On a parlé travail. Et puis après, comme il était tard, ça a dû déraper légèrement.
D'accord. Manu Farine.
Sur le plateau, donc, on l'a dit, une troupe, la vôtre, des interprètes fidèles avec lesquels vous travaillez pour certains depuis très longtemps, que ce soit les danseurs ou les comédiens. Et comme toujours, une sorte d'éloge de la diversité, c'est-à-dire un grand, très très grand, des petits, des menus, des enrobés, musclés, une femme enceinte même. Je ne sais pas si elle danse d'ailleurs encore, si elle continue à danser.
Elle est encore là, Alex Naudet est encore sur scène jusqu'à dimanche, après elle est en arrêt.
Vous faites bien de le dire, parce que Manu est très attentif à ce genre de choses.
Oui. Pas toujours, mais oui, pourquoi pas. Un tatoué, en l'occurrence Nosfell, donc des comédiens, des musiciens, des danseurs, des circassiens. Ce principe-là, c'est-à-dire celui vraiment de mettre sur un plateau une telle diversité, qui est un principe assez central, est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé d'emblée chez vous, dès le départ, c'est-à-dire au début des années 80? Et qu'est-ce que ça vous permettait de venir contrer ou affirmer à cette époque-là, dans les années 80?
En tout cas, au départ, j'avais un souhait de effectivement travailler avec des corps différents les uns des autres. Ça me semblait être comme une évidence. J'ai adoré Freaks de Todd Browning, par exemple, et les corps différents m'ont toujours intéressé pour des raisons que j'ignore, mais je suis plus intéressé par les différences que par les corps similaires. C'est peut-être aussi une réaction contre le ballet classique où il y avait, quand j'étais petit, j'étais assez traumatisé par ces gens qui essayaient tous de correspondre à un moule comme ça, un modèle précis qui était pour moi pas spécialement plus beau qu'un autre. Enfin, je trouvais ça très étrange. Donc j'ai toujours eu envie de travailler avec des gens différents. Et ensuite, le goût des mêles, oui, je sais pas. Moi, j'ai toujours aimé faire monter des spectacles quand j'étais petit dans ma chambre avec mes ours. Et je faisais déjà la musique, les costumes et ce genre de choses. J'ai toujours aimé mélanger les formes.
Vous parlez de spectacles et de formes différentes et de corps différents. Est-ce que vous avez été traumatisé ou est-ce que vous avez souffert quand vous avez chorégraphié Désir Désir pour les filles du Crazy Horse, Pascal? Alors là, question uniformité, on se pose là. Ça a été difficile pour vous, justement, de mettre en scène ces corps identiques?
C'était un exercice, du coup. C'était un vrai exercice pour moi et une vraie contrainte. Mais du coup, c'est vrai qu'ayant toujours travaillé avec des corps différents, j'avais quelques idées en stock pour lesquelles une série de personnes pouvait être intéressante. Une série de personnes identiques, ça permet chorégraphiquement d'autres choses. Donc pour ça, c'était intéressant. Après, la grande difficulté au Crazy, ça a été qu'on ne ferme jamais là-bas. Donc le théâtre n'a pas fermé un seul jour et j'ai dû faire une création en travaillant petit à petit, en changeant un détail chaque jour jusqu'à arriver à un nouveau spectacle. Et pour ça, ça a été assez laborieux.
À nous.
Vous parlez de vos spectacles avec vos petits ours. La danse arrive sur le tard pour vous. Ce sera d'abord Adolescent, l'expression corporelle avec Isaac Alvarez, le cirque avec Annie Fratellini, le mime. Qu'est-ce qui vous fait finalement basculer du côté de la danse? Qu'est-ce qu'il manquait?
Mes capacités physiques, en réalité, en cirque, je me suis rendu compte que la première fois que j'ai essayé de faire un saut périlleux, je suis tombé sur la tête, c'était dramatique, j'ai pas eu envie de réessayer. Le mime chez Marceau m'a semblé être un art déjà à l'époque du passé. J'ai senti que c'était quelque chose qui était en train de disparaître, que la pantomime avait, enfin, il fallait vraiment faire quelque chose d'autre. Et dans les années 80, il se trouve que la danse contemporaine en France commençait à peine à exploser et qu'il y avait des chorégraphes intéressantes et que les démarches intéressantes venaient de là. De plus, j'ai un corps, il se trouve que j'étais souple naturellement. Et je me suis rendu compte que chez les garçons, ce n'était pas si courant et que donc ça, je pouvais peut-être faire quelque chose dans la danse.
Vous dites aussi que si vous n'aviez pas gagné le concours chorégraphique de Bagnolet à l'âge de 22 ans, vous auriez arrêté. Qu'est-ce que vous auriez fait, Philippe de Coufflet ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, un autre métier artistique. Moi, j'ai toujours aimé, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là-dedans.
La vidéo notamment, le cinéma, oui.
Oui, c'est ça. Peut-être que j'aurais fait du cinéma.
Le rendez-vous, la chronique.
Philippe de Coufflet et Judith Chemla, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la chronique Place de la Toile de Xavier Delaporte, en partenariat avec Rue 89, dont il est le rédacteur en chef. Une chronique de tous les dangers aujourd'hui, puisque manifestement, elle s'est faite, c'est presque un work in progress, elle s'est faite en direct. Problème de mail, hein, j'ai l'impression.
Oui, je vais vous expliquer, mais d'abord, le dispositif. Dans ces cas-là, on s'en tire toujours avec un dispositif.
J'imagine.
Pas en s'en tire ou pas, on verra.
Xavier Delaporte.
En hommage à La Féline, qui a fait sa thèse sur Adorno, je vais me risquer...
La Féline que l'on va entendre tout à l'heure.
On va entendre tout à l'heure, en fin d'émission. Je vais me risquer à quelques minima moralia du titre de l'ouvrage publié au début des années 50 par Théodore Adorno, auquel donc elle a consacré sa thèse dans une autre vie. Bon alors, en fait, comme vous le disiez, je suis un peu dans la galère parce que je me suis envoyé le mauvais fichier et je suis donc dans une sorte de semi-improvisation, ce qui ne correspond sans doute pas aux conditions d'écriture d'Adorno lui-même, mais comme de toute façon il était désespéré d'atteindre son niveau, autant être excusé par les conditions, d'où mon premier développement, l'ordinateur. L'ordinateur, il n'est pas ton ami. Pas ton ennemi non plus, mais pas ton ami, c'est sûr. L'ordinateur est à la fois très con et parfait. Il est difficile pour nous, humains, de penser une chose qui soit à la fois nulle et parfaite. Il est donc difficile de penser l'ordinateur. Point 2, pour Marcel Proust. C'est le point 1 des minima moralia d'après moi.
Je vois ça.
Depuis une discussion avec une spécialiste de Proust, qui émettait l'hypothèse que Proust, qui lisait toute la presse et mettre au courant de tout, aurait adoré Internet, je ne peux m'empêcher d'imaginer Proust dans son lit, avec un ordinateur sur les genoux. Il aurait surfé sur des sites d'infos, il aurait eu un compte Instagram où il aurait posté des photos de soirées mondaines, et il aurait tenu un blog sur lequel il n'aurait fait qu'écrire la même phrase. L'écrire et la réécrire, l'augmenter et la farcir, jusqu'à ce qu'elle devienne une sorte de monstre intersexuel.
Intersexuel ?
Pourquoi j'ai dit intersexuel ?
Ah ben non, mais ça, moi je peux pas, ça, je peux pas tout résoudre non plus, j'ai pas accès à votre inconscient.
Non, c'est pas,
quelle
c'est
merde.
Pas vous qui vous intéressez à la psychanalyse. Bon, vraiment. Qui n'en finirait pas, donc un monstre intersexuel,
ouais.
Qui n'en finirait pas d'enfler jusqu'à son dernier souffle.
Ah non, mais enfler, ça marche avec ce que vous avez dit précédemment.
Ouais, bah, alors là, c'est en plus, j'essaie de faire de la poésie. Qui ne finirait pas d'enfler jusqu'à son dernier souffle, celui de Marcel, qui se récoulerait sur son clavier, sa tête appuyant sur Delete durablement, et il ne resterait plus rien. Point 3. Les singes et les robots. Et si le rapport que nous avions aux robots dépendait de celui que nous avons aux animaux ? Partant du principe que les Japonais, à la différence de nous autres occidentaux, n'ont aucun problème avec les robots androïdes, c'est-à-dire les robots à forme humaine, j'en déduis qu'il faut l'imputer à la manière dont ils conservent leur relation à la nature. Contrairement à nous autres occidentaux imprégnés de cartésianisme, les Japonais ne se conçoivent pas comme différents des autres êtres de la nature. Ils voient une continuité là où nous voyons une discontinuité. Ainsi, au début des années 50, ils ont mené des recherches sur les singes, observant que ceux-ci se transmettaient des savoirs. Ainsi, si une guenon découvrait, c'est souvent les guenons qui découvrent chez les singes, suite à une migration au bord de mer, que la patate douce trempée dans l'eau de mer était agrémentée par le sel, on voyait par la suite l'ensemble du groupe, souvent sous l'impulsion des femelles, se mettre à tremper leur patate douce dans l'eau de mer. D'où les Japonais tirèrent la conclusion que les Européens auraient été incapables de tirer et qu'ils n'ont pas tiré d'ailleurs suite à la constatation pourtant similaire de travail chez les mésanges au début des années 30 en Grande-Bretagne. Donc les Japonais ont tiré la conclusion qu'il y avait une culture chez les animaux, au sens où il y avait transmission d'un savoir. Ainsi peut-on postuler que le jour où il faudra doter les robots d'un droit, ce sont les Japonais qui le penseront. Point 5. Les enfants et Internet. Hier, j'ai eu une conversation avec mes enfants au sujet d'Internet. Ils ont 4 et 7 ans.
J'ai l'impression que c'est votre unique sujet de conversation avec vos enfants. Vous m'inquiétez, Xavier Delapeur.
Non, c'est parce que comme je fais une chronique sur Internet, je vous parle de mes enfants avec Internet.
D'accord.
Je ne parle pas de plein d'autres trucs. Je leur ai demandé donc ce que c'était qu'Internet. On ne sait pas, m'ont-ils dit en chœur. Puis, quand j'ai continué à leur poser des questions, ils m'ont dit « bah c'est des jeux et YouTube ». Et il faut payer pour ça, leur ai-je demandé. La grande a répondu « ça dépend. Quand c'est récent, il faut payer, parce que c'est nouveau. Quand c'est vieux, t'es pas obligé, parce que ça intéresse plus personne. » Intérieurement, je louais cette très belle définition du domaine public. Puis, je demandais « mais au fait, les enfants, mes chéris, c'est où Internet ?» Ce à quoi le petit répondit « dans ton gros cul ».
Ah oui. Et ça fait dit comme ça.
Bah, c'est des minima moralia. Et en minima moralia, il y a minima, c'est-à-dire tout petit. Voilà, c'est tout petit.
Parfait. Vous êtes parfait. Comme le début de votre chronique. Et con à côté, non ?
Pardon ?
19-20, le rendez-vous. Rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau Voix avec vous, Judith Chemla, comédienne au théâtre et au cinéma. Il y a eu Camille Redouble de Noémie Lovski en 2012, l'annonce faite à Marie de Paul Claudel l'année dernière au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Et cette fois-ci, vous êtes à l'affiche cette semaine de Rendez-vous à Athlite, le premier long-métrage de Shirel Amitai, un film bilingue franco-israélien. L'histoire en deux mots, on est en Israël en 1995. Trois sœurs, interprétées par vous, Géraldine Akash et Yael Abekassis, se retrouvent dans la petite ville d'Athlite pour vendre la maison de leurs parents décédés. Et puis, le 4 novembre 1995, on a apprend l'assassinat d'Itzhak Rabin. Bande annonce.
On va être bien, on va être bien. On va se faire des beignets.
Ah, l'Israélien.
On promet de ne pas se bagarrer. Moi, j'aimerais bien garder les robes de maman.
Allez, hop, hop, hop. Liquidation totale. On y va, on y va.
Shalom.
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 Tishma, c'est rak n'iraya fait, ken? C'est rakov, c'est arros, c'est herbe.
Je ne garde pas cette maison, je la vends.
On va pas recommencer les discussions. On a décidé, voilà, c'est décidé.
Voilà.
Hey, shawarma.
Shawarma.
Tel Aviv. Chanot la Tseretz. Don't forget, the fourth you must come.
Mon futur, il n'est pas dans ce pays, tu comprends?
Vous êtes chiante, on parle pas politique.
Donc toi, tu vas à des manifs et on parle pas politique?
Oui, je vais à des manifs pour la paix.
Vous allez voir, on va regarder la manif en couleur.
No pain in the head, no shootings, nothing. Just peace. And it's going to be paradise.
Yitzhak Rabin, asher nirtzach bidei mitnakesh, alev betel Aviv.
Vous êtes incapable de faire des choix, de prendre des décisions. Cette maison, on va aller la déclarer aux Nations Unies comme un territoire neutre, comme un territoire libre.
Sur votre voix immédiatement identifiable, Judith Chemla, que se termine cette bande-annonce remontée, une voix unique, assez enfantine et puis en même temps autoritaire, à l'image d'ailleurs de votre personnage dans le film. Est-ce que cette voix vous a parfois desservi, éloigné de certains rôles ?
Écoutez, j'ai l'impression d'avoir fait des choses très très diverses,
exactement,
très différentes. Ouais. Donc pour l'instant, je me sens pas du tout exclue de quoi que ce soit.
Lucille Como.
Le film repose surtout sur la proximité qu'il y a entre vous, entre les trois sœurs. Donc il y a Géraldine Nakache, Yael Abekassis et vous. La réalisatrice Shirel Amitai avait mis en place des jeux, je crois, pour vous préparer à cette proximité-là. C'était quoi ces jeux, ces exercices ?
Oui, on s'est retrouvés dans la maison de la productrice à Paris. Et puis, par exemple, elle nous a fait jouer des jeux comme Jacques Addy, par exemple. Ou...
Ah ouais,
oui,
super.
C'est formidable. Non, mais je ne sais pas. Non, non, attendez, Jacques Addy, c'est Géraldine qui dit qu'on joue à Jacques Addy, mais je ne suis pas sûre qu'on joue à Jacques Addy. Je ne sais pas, des mots, des associations de mots, des improvisations. Mais de toute façon, le contact a été immédiat entre nous, La fraternité, la sororité a été assez immédiate.
A priori, c'est un casting qui peut paraître surprenant. Premier rôle dramatique, c'est le premier rôle dramatique pour Géraldine Nakache, qu'on connaissait plus dans le registre de la comédie. Vous-même, comédienne claudélienne, passée par la comédie française. Qu'est-ce que la réalisatrice attendait de cette distance, a priori ?
Distance entre nous ?
Entre vous, oui. Venant d'horizons différents, disons.
Je ne suis pas sûre qu'elle misait sur la distance, mais je pense que chacune de nous, dans nos différences, avait un lien avec l'histoire. Ces trois sœurs portent une vision très, des fois, dans l'opposition de leur rapport à la terre d'Israël. Elle avait envie que nous soyons différentes, mais Elle avait peur que nos peaux, nos attitudes fassent qu'on ne croit pas à notre sororité. Et puis finalement, on ne s'est jamais posé cette question-là.
Vous étiez déjà allée en Israël auparavant ?
Jamais.
Donc le film a été l'occasion d'y aller ?
Absolument.
Qu'est-ce qui vous a marqué justement quand vous êtes arrivée là-bas ?
Déjà d'y aller avec ce projet, c'était quand même quelque chose. Je pense que je ne sais pas si j'y serais allée sans un projet comme ça, qui parle, qui est vraiment sur un espoir de paix, qui parle du moment où Rabin a été assassiné, qui est quand même un projet politique aussi. J'ai été frappée par l'intensité et la charge qu'il y a sur cette terre. C'est vrai que c'est assez fou, en fait. On sent qu'il y a une chose magnétique très forte. Et il y a quelque chose d'assez sacré, quoi, c'est vrai. Et c'est vraiment un lieu de conflit extrême parce qu'il y a une densité spirituelle très forte aussi.
Philippe de Coufflet, vous avez déjà dansé ? Vos spectacles ont déjà été tournés en Israël ?
Moi, je n'y ai jamais été, en tout cas, non.
Vos spectacles non plus, donc vous le sauriez. Lucille.
Vous avez pris des cours, Judith Chemla, des cours d'hébreu pour le film qui a été tourné dans les deux langues. Vous avez quelques scènes en hébreu. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'exercice de cette langue ?
Au début, je me suis dit, mais c'est extraordinaire comme on est loin de cette langue. C'est vraiment... Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Quoi. C'est des sonorités que je ne connaissais pas. Mais très belle. Ça m'a passionnée de rentrer dans cette langue archaïque.
Et ça change quelque chose dans votre timbre de voix quand vous la parlez ?
Oh bah oui, ça modifie. Ouais. Toutes les langues vous modèlent à leur façon. Ouais.
Dans le film, vous chantez à plusieurs reprises. Ce n'est pas la première fois, car de nombreux metteurs en scène vous font souvent chanter. C'était le cas notamment dans l'annonce faite à Marie. Qu'est-ce que cet apprentissage-là, parce que vous êtes formé au chant, a changé dans la manière de dire les textes sur scène ? Est-ce que ça a pu modifier quelque chose ?
Moi, j'y pense pas du tout. Par contre, j'ai découvert avec l'annonce faite à Marie que la langue pouvait être une chose qui vous emporte, comme le chant. Qu'il pouvait y avoir qu'un texte, tout d'un coup, les courants profonds d'un texte, mais je l'avais découvert avant aussi avec De Beau Lendemain, peuvent vous amener dans des transes, dans des oublis de vous-même.
Dans la pièce dont on parlait tout à l'heure, Contact avec vous, Philippe de Coufflet, on parlait de danseurs, chanteurs, comédiens, les danseurs chantent aussi. Est-ce qu'ils ont dû avoir une formation pour ce spectacle-là ?
Oui, on a pris des cours de chant depuis le début des répétitions. Donc,
et ça, avec qui ?
Avec Dalila.
Dalila Katir.
Voilà.
D'accord. Vous-même aussi ?
Ouais, avec beaucoup de plaisir. Ça fait énormément de bien de chanter. Hein. C'est quelque chose qui libère, qui détend, c'est très agréable.
Quel est le répertoire qu'elle vous a fait chanter, Dalila Katir, qui est aussi danseuse par ailleurs ?
Oh là, c'était des exercices, vraiment des exercices vocaux, d'échauffement de voix, où on compte et où on dit des choses qui sont pas très... Non, c'était de l'échauffement vocal. Et puis on a dû faire un chant médiéval, mais après, très vite, on a commencé à travailler sur les chansons du spectacle.
Lucille.
Judith Chemla, vous dites que vous avez découvert votre voix en imitant des chanteuses. Quelle chanteuse est-ce que vous imitez le mieux ?
Non, on ne va pas vous demander de le faire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez
tout
balancer.
Non, mais quand j'étais petite, je chantais beaucoup Piaf. Et je pense que j'imite Piaf. Après, j'ai voulu imiter Callas. Ça va, c'est pas assez sympathique. Voilà.
Et vous avez réussi à imiter Callas ?
Oh, écoutez, ça... je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non.
Non, ça veut dire quand même que vous avez un registre assez étendu.
Absolument.
Comme tous les jours, on demande à nos invités de venir avec un son qui les ont marqués. Et voici ce que vous avez choisi, Judith Chemla.
Je jure devant Dieu que je ne me laisserai pas abattre. J'aurai le dernier mot et lorsque ce cauchemar sera terminé, je ne connaîtrai jamais plus la fin. Non, ni moi-même, ni les miens. Eussé-je mentir, voler, tricher ou tuer, je jure devant Dieu que je ne connaîtrai jamais plus la fin.
Et toutes les filles du bureau ont fait taratata. Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Judith Chemla.
C'est Scarlett, c'est Vivienne Leigh. Enfin, c'est la doublure française de Vivienne Leigh, telle que je l'entendais quand petite, j'ai regardé des dizaines de fois autant N'importe le vent.
Et qu'est-ce qui vous a marqué pour regarder autant ce film ?
Je sais pas, je pense la force de vie de cette femme, son impétuosité, sa, cette femme passionnée, en dehors des clous.
Et Mélanie, vous l'aimiez bien ?
Melly. Beaucoup moins.
Lucille Comeau.
En 2007, Muriel Mayette vous fait entrer à la Comédie Française. Vous aviez auparavant assisté aux cours qu'elle donnait au conservatoire et vous dites que c'est la meilleure prof que vous avez vue à l'œuvre. En quoi ? Qu'est-ce qu'elle faisait de particulier ?
Bon, meilleure prof, j'ai eu un professeur merveilleux aussi. Enfin, j'ai eu plusieurs professeurs merveilleux. Hein. Bruno Vacrenier aussi au conservatoire du 5e qui nous a donné beaucoup de liberté. Bon. Non, Muriel Mayette, par contre, c'est la seule qui avait une méthode. On a peu de méthodes en France. Souvent, les professeurs sont des acteurs, donc ils nous transmettent des choses qui leur sont propres. Ils nous amènent à trouver les nôtres et tout ça. Mais Muriel avait une méthode qui faisait que vraiment les acteurs étaient libres d'une présence extraordinaire. En fait, elle arrive à mettre l'acteur à nu. Face au texte, c'est-à-dire pas mettre d'obstacles entre soi et un texte, pas mettre d'idées préconçues. Tiens, ça, je vais te le dire comme ça. Puis, tiens, ce mot-là, paf, faut mettre cette intention. Non, vraiment se vider, faire le vide et être dans cette nudité, c'est vrai que ça donne des choses très surprenantes parce que le présent, bon, c'est une œuvre d'art. La vie est une œuvre d'art. C'est jamais un cliché, en fait. Voilà.
Philippe de Coufflet, est-ce que vous, dans votre parcours, il y a des professeurs qui vous ont marqué par leur méthode ou par leur technique ?
Oh, j'ai eu plusieurs professeurs extraordinaires, hein, à commencer par Alvarez, Isaac Alvarez, avec qui j'ai débuté, qui était passionné aussi, qui était quelqu'un qui était entièrement dans son art. Son art, c'était l'expression corporelle, ça venait du mime, c'était quelque chose d'assez merveilleux. J'ai pris quelques cours avec Merce Cunningham à New York et ça a été un moment aussi extraordinaire.
Ouais, vous dites avoir appris avec lui plus que tout ce que vous aviez pu faire auparavant.
Oui, j'ai eu l'impression, c'était comme un condensé. Mon passage à New York a été un condensé d'informations, mais c'était l'époque où il y avait d'immenses professeurs de danse là-bas et c'était bien.
Dernière question, Lucille.
Il y a une tradition à la Comédie Française, c'est l'hommage annuel à Molière de toute la troupe. Chaque comédien choisit le costume d'un personnage qu'il a marqué dans l'année et une phrase qu'il déclame au public. Vous aviez choisi quel costume et quelle phrase ?
Moi, je faisais Agnès. Qu'est-ce que j'avais choisi comme phrase ? Je m'en souviens absolument pas. Je suis désolée.
Pourquoi vous n'êtes pas restée très longtemps à la Comédie Française ? Un an et demi,
peut-être ? Un an et demi, j'ai beaucoup aimé être là-bas. J'ai joué 5 pièces, ouais. J'ai fait des rencontres merveilleuses. Je me suis sentie très bien. Mais je savais que mon destin n'était pas là.
C'est-à-dire ?
Je savais que j'avais envie de faire des choses très différentes, d'inventer des choses. Et puis surtout, de sentir le vide, d'avoir peur. Des fois, je ne pouvais pas être dans trop de confort ou je ne pouvais pas tout le temps jouer, tout le temps. Je voulais que les choses que je choisisse ou les gens qui me choisissent, ça soit vraiment une chose nécessaire. Et voilà, des rencontres pures et pas parce que, tiens, il nous faut une telle. Enfin bon, voilà.
Le rendez-vous, la session.
Et bien tout de suite pour conclure l'émission, la session live du vendredi, une programmation soutenue, programmée et annoncée par notre réalisateur Thomas Beau.
Tout ça, j'ai intérêt à pas me rater après ça. On aurait pu dire session chanson ce soir dans le rendez-vous. Et en fait, on aurait surtout pu dire session variété avec La Féline. Mais seulement si nous avions vécu dans un monde parfait où la variété serait simplement populaire et chantée en français. Un monde dans lequel, par exemple, La Féline se situerait tout juste au milieu entre Camille et Mylène Farmer. Un monde dans lequel la légèreté de la mélodie pourrait abriter des paroles profondes et mystérieuses. Mais ce monde n'existe pas vraiment, alors du coup on va plus parler de dream pop ou encore de chansons affûtées et minimalistes. Le nom de La Féline est emprunté au premier film de Jacques Tourneur, sorti en 1942. Et ici c'est une bestialité extrêmement raffinée qui s'empare de notre esprit et parallèlement de notre corps lorsqu'on écoute le très bel album d'Agnès Guéraud, Adieu l'enfance. Adieu l'enfance ou l'histoire douce amère de cette photo d'Agnès prise en 1985. Une petite fille, cheveux courts, bottes blanches, parka bleu, qui jubile tout en haut du pic du Gers dans les Pyrénées. Et cette photo, eh bien Agnès va demander à sa mère de lui envoyer par la poste pour qu'elle apparaisse sur le disque. Mais, comme il y a toujours un mais dans les histoires, la photo va finir par se perdre avant d'arriver dans la bonne boîte aux lettres, à l'image de cet adieu à l'enfance auquel nous sommes tous confrontés. S'en suivra une recherche héroïque à l'issue aussi émouvante qu'incertaine à découvrir dans le livret de l'album. Et ce soir, Agnès Guéraud nous interprète en direct du studio 108 une presque chanson d'amour, accompagnée de Bertrand Fleyman à machine et clavier, et Sébastien Dousson à la basse, dans le doute, La Féline. Féline, dans le studio 108 et dans le rendez-vous, l'album Adieu l'enfance a paru sous le label Quaidan Records en concert le 12 février à l'Olympique à Paris, le 6 mars au Sablier à Rennes et le 14 juin, c'est plus loin, aux Nuits de Fourvière à Lyon. Plus de dates sur lafelinemusique.com.
Faisons Faust. Cette fois-ci, on a essayé.
Et puis finalement, on ne s'est jamais posé cette question-là.
Merci à nos invités. Philippe de Coufflet, Contact, c'est au Théâtre National de Chaillot à Paris jusqu'au 6 février avant de partir en tournée. Judith Chemlar, Rendez-vous à Athlète, est sorti en salle depuis mercredi. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
J'ai peur de nous. La raison n'est pas notre allié. Tour à tour, on se tourne autour. Sans jamais avoir basculé, les jeux interdits, ton humour abstrait me font toujours autant d'effets.
Ah, lundi, il faudra attendre. Bah, demain, plutôt, il faudra attendre lundi. Lundi, ce sera une émission femme avec Brigitte et Guillaume de Tonquédec. La désannonce, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Aïssette Wendoy et Hippolyte Babilote. Journal de la culture et supplément week-end, Zoé Spez et Benoît Lagan. Chronique Xavier Delaporte. À la prise de son, Élise Leu et Anthony Thomasson. Et à la réalisation, Thomas Beau.